Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. L'armée turque est entrée en Syrie. Recep Tayyip Erdogan a mis ses menaces à exécution, 4 jours à peine après le retrait américain ordonné par Donald Trump. Dans ce journal, nous ferons le point sur la situation militaire avec Omar Waman et nous irons à Washington pour évoquer avec Grégory Phillips la réaction à minima du président américain. 2 morts dans une attaque néo-nazie à Halle en Allemagne. Un homme s'est attaqué à la synagogue de la ville avant de faire feu dans un kebab. Le récit de Ludovic Piétenu. L'OCDE fait des propositions pour taxer davantage les géants du numérique qui se jouent des frontières fiscales. Nous en parlerons avec notre invité Pascal de Saint-Amand, responsable des questions de fiscalité au sein de l'organisation. 4 jours à peine après la décision de Donald Trump de retirer les troupes américaines du nord de la Syrie, la Turquie est donc passée à l'offensive. L'armée turque a franchi aujourd'hui la frontière syrienne pour attaquer les YPG, la milice kurde qui avait joué un rôle décisif dans la chute de l'État islamique. Les Kurdes qui ne peuvent plus compter sur leurs alliés occidentaux pour les défendre militairement. Rappelons que pour le président turc Recep Tayyip Erdogan, il n'y a pas de différence entre Daesh et les milices kurdes, ce sont tous des terroristes qui menacerait la stabilité de son pays. On fait le point sur la situation militaire ce soir dans le nord de la Syrie avec vous, Omar Waman.
Des raids aériens, des tirs d'artillerie. La Turquie a mis sa menace à exécution. Première cible, la ville frontalière de Ras el Ain, un secteur contrôlé par les unités de protection du peuple. Une milice kurde considérée par Ankara comme terroriste en raison de ses liens avec le PKK. Très vite, des milliers d'habitants ont commencé à fuir. Selon plusieurs sources, il y a des victimes parmi les civils. Écoutez la réaction désespérée de Jemile Reneklik, qui est représentante du Conseil démocratique des organisations kurdes de France. Elle rappelle le rôle crucial joué par les Kurdes contre les djihadistes de Daesh.
C'est la colère, c'est la tristesse du peuple kurde qui s'est vu une fois de plus abandonné. Nous avons quand même perdu 11 000 des nôtres pendant la guerre contre Daesh. Qu'on nous laisse tomber face à la Turquie sous prétexte qu'elle veut sécuriser ses frontières est inacceptable par le peuple kurde.
Cette offensive a provoqué un véritable tollé sur la scène internationale. La Commission européenne demande l'arrêt des bombardements. La France a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU qui débattra demain de la situation dans le nord-est de la Syrie où la Turquie veut créer une zone tampon pour installer une partie des 3 millions de réfugiés syriens présents sur son sol.
Omar Waman, merci. Et selon un premier bilan fourni ce soir par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'offensive turque contre les Kurdes de Syrie a déjà fait 11 morts, dont 8 civils. Par ailleurs, des combats sont signalés en ce moment tout au long de la frontière entre l'armée turque et les forces démocratiques syriennes, un mouvement rebelle composé essentiellement de miliciens kurdes. La décision de Donald Trump de retirer les troupes américaines du nord de la Syrie avait suscité un tel tollé aux États-Unis que le président américain avait fait machine arrière lundi. Seules quelques dizaines de soldats avaient été redéployés et Trump avait affirmé la main sur le cœur qu'il n'abandonnerait pas les Kurdes de merveilleux combattants. Nous sommes en direct de Washington avec Grégory Phillips. Bonsoir.
Bonsoir.
Grégory, Donald Trump critique ce soir l'invasion turque, mais il s'agit d'une réaction à minima du locataire de la Maison-Blanche.
Oui, alors que dit Trump dans ce communiqué? Eh bien, d'une part que les États-Unis ne soutiennent pas cette attaque et d'autre part que cette opération militaire est une mauvaise idée. Mauvaise idée. C'est vrai qu'on a déjà vu des positions diplomatiques plus tranchées, mais finalement, avec ces quelques mots de Trump, eh bien, ils illustrent bien cette position américaine de double discours. Souvenez-vous, dimanche soir, Trump expliquait à Erdogan qu'il allait retirer les troupes américaines de la zone et donc en gros qu'il laissait aux Turcs le champ libre pour mener une opération militaire. Émotion aux États-Unis, côté démocrate comme côté républicain d'ailleurs, avec quand même le sentiment que la Maison Blanche abandonnait, voire sacrifiait les alliés kurdes. Donc Trump a été obligé de faire un petit peu machine arrière et de prévenir Ankara, attention à ne pas franchir la ligne rouge, traduisez, ne tapez pas trop fort sur les Kurdes, sinon vous ferez face à des sanctions qui pourraient détruire, voire anéantir l'économie de votre pays. Vous voyez, depuis dimanche soir, la diplomatie américaine fluctue entre ces différentes positions. Trump paraît seul à la manœuvre. Le Pentagone et le Département d'État sont sur la touche et embarrassés par les messages contradictoires qui arrivent du bureau ovale. Ce soir, enfin, la Maison Blanche dit qu'elle va suivre de très près l'évolution de la situation sur le terrain à cette frontière entre Turquie et Syrie.
Grégory Phillips, correspondant aux États-Unis en direct de Washington. Merci. C'est une certitude ce soir. L'attaque de la synagogue de Halle dans l'est de l'Allemagne était une attaque d'inspiration néo-nazie. Le suspect Stéphane Balit a tué à la mi-journée deux personnes, d'abord devant le lieu de culte, puis dans un restaurant kebab situé à proximité. Il a diffusé en direct son attaque sur Twitch, une plateforme de streaming spécialisée dans les jeux vidéo en ligne. Il a finalement été arrêté après plusieurs heures de cavale. L'attaque a eu lieu le jour du Yom Kippour, le Grand Pardon, l'une des principales fêtes juives. On retrouve à Halle notre envoyé spécial Ludovic Piétenu.
Il a tout filmé et mis en ligne cette vidéo sur internet. On le voit avant son action, juste avant son arrivée devant la synagogue. Il filme son arsenal, ses armes, sur la banquette arrière de la voiture, sur le siège passager. Il ne porte pas encore de casque. Il a le crâne rasé, il a 27 ans et vient des milieux néo-nazis. Puis il filme son assaut, sa première victime, devant la porte de la synagogue. Il tire dans le dos de cette passante. Malgré ses tirs sur la porte, il ne parvient pas à rentrer dans la synagogue, remonte dans son véhicule, fait feu ensuite sur un restaurant turc où il fait là une deuxième victime, un homme. La police le localise à une quinzaine de kilomètres de Halle. Il cherche une autre voiture, blesse un homme qui lui résiste et finit par braquer un taxi. Sa course se terminera par un accident vers 15h30, plus de 3 heures après le début de cet assaut. C'est là, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Halle, qu'il sera arrêté par la police et conduit à l'hôpital.
Ludovic Piétenu depuis Halle en Allemagne. En Tunisie, le candidat à la présidentielle Nabil Karoui est sorti de prison ce soir, 4 jours avant le second tour de scrutin. Il a été libéré dans la journée. Nabil Karoui a été accueilli en héros par ses partisans à sa sortie de la prison de la Monarghia, à 20 km de Tunis. Le dimanche prochain, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle en Tunisie, Nabil Karoui affrontera le candidat conservateur Kaïs Saïed. En France, Adama Traoré, l'homme qui avait osé appeler à manifester en faveur de Michaël Harpon, est en garde à vue ce soir. Cet activiste communautariste voulait réhabiliter la mémoire du djihadiste de la préfecture de police de Paris. Sur Facebook, Traoré avait prétendu que Michaël Harpon n'était pas un terroriste, qu'il aurait été pris d'un coup de folie après avoir subi une série d'humiliations de la part de ses collègues. La manifestation qu'il voulait organiser demain à Gonesse a finalement été interdite ce matin sur ordre du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Pourtant, hier soir, la préfecture du Val-d'Oise n'avait pas vraiment d'avis sur la question. D'où la colère des syndicats de police. Linda Kebab est porte-parole du syndicat Unité SGP Police.
Sous prétexte de velléité politique locale dans le 93, il a pris la police et les policiers pour son fonds de commerce. Il cache pas son soutien au Black Bloc, d'ailleurs il le dit dans des vidéos, il appelle régulièrement à la haine contre nous, à la violence, il cautionne tous les faits de délits et de crimes qui peuvent se dérouler dans les quartiers. Enfin bref, il est en train d'essayer de ratisser un électorat nourri par la colère, et le problème c'est que aujourd'hui il a dépassé d'un cran en appelant à une manifestation de soutien aux tueurs de 4 de nos collègues qui ne sont même pas enterrés, et sans aucune décence il se permet de balayer les motifs finalement de ce tueur qui était issu de la préfecture de police, en donnant l'impression qu'au final c'est la société qui l'a rendu criminel. Il aura fallu une indignation collective sur les réseaux sociaux pour que le politique décide enfin de demander l'interdiction de la manif au préfet du 95 et à saisir le procureur, parce qu'il y a clairement un fait délictuel, mais c'est quand même grave d'en arriver à un hashtag sur les réseaux sociaux pour que le ministère daigne prendre cette histoire qui est gravissime au sérieux.
Linda Kebab du syndicat Unité SGP Police. Va-t-on vers une plus forte taxation fiscale des géants du numérique ? C'est tout l'enjeu de la réunion du G20 Finance le 18 octobre à Washington. Les dirigeants des 20 pays parmi les plus riches du monde pourront s'inspirer des travaux de l'OCDE. L'Organisation pour la coopération et le développement économique propose un projet de taxe GAFA. GAFA pour Google, Apple, Facebook ou Amazon. On en parle avec l'invité de ce journal, Pascal Saint-Amand, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. Bonsoir.
Bonsoir.
Pascal Saint-Amand, quelle est la philosophie de votre proposition de taxation des géants du numérique ?
La philosophie, c'est de faire en sorte que des entreprises puissent être taxées sur un territoire, même lorsqu'elles n'y sont pas physiquement présentes. Parce que les règles actuelles de fiscalité internationale sont telles qu'un pays ne peut taxer une entreprise étrangère que si elle est physiquement présente. On appelle ça un établissement stable dans notre jargon. Et on voit bien qu'avec la numérisation de l'économie, c'est de moins en moins le cas. C'est vrai pour les entreprises très numérisées, Google, Facebook, mais aussi pour d'autres entreprises qui auront de moins en moins de présence physique sur les territoires. Et donc la philosophie de notre approche, c'est un, faire en sorte qu'un pays puisse taxer une entreprise même lorsqu'elle n'est pas physiquement présente, et deux, faire en sorte qu'une partie du profit mondial de cette entreprise bien, soit allouée au pays de marché. Et donc faire en sorte que les entreprises ne puissent plus localiser la totalité de leurs profits dans les pays de résidence, là où elles ont leurs quartiers généraux, ou dans des paradis fiscaux, mais qu'une partie de leurs super profits aille dans les pays de marché, dans les pays où vous avez des utilisateurs. Et peut-être un dernier mot, c'est que quand on creuse le sujet, il n'y a pas seulement les GAFA. En France, on parle beaucoup des GAFA, mais ça va au-delà. C'est vrai pour toutes les entreprises qui ont des marques très élevées ou qui interagissent avec les consommateurs finaux en réalité.
Mais concrètement, comment on fait pour taxer des entreprises qui se jouent des frontières ?
Alors justement, c'est ça l'enjeu. On a un monde qui est fait d'États souverains avec des frontières et d'entreprises globales qui ne connaissent pas les frontières. Et les pays, ils ont des frontières, ils ont des conventions fiscales pour éliminer les doubles impositions, donc ils sont très contraints, ils n'ont pas la vision globale. Eh bien, ce que propose l'OCDE, c'est un forum mondial. On a aujourd'hui 134 pays sur un pied d'égalité qui discutent des règles, les pays en voie de développement, les pays émergents, les pays du G20, la France, les pays européens. Ils discutent tous de règles communes et le but, c'est d'adopter des règles communes pour que les pays soient équipés au même titre que les entreprises et ils aient cette vision globale et un accord sur comment se partager globalement les profits globaux des entreprises.
Et les entreprises, les géants du web, seraient finalement taxés d'abord là où elles font le plus de profits. C'est un peu ça la philosophie.
La vraie question, c'est où est localisé le profit ? C'est où ? Est-ce que c'est là où la propriété intellectuelle est localisée ? Ça veut dire quoi ? Là où l'algorithme de Google a été mis ? Il peut être aux États-Unis, à Mountain View, en Californie, ou aux Bermudes, parce qu'il y a un contrat qui prévoit qu'il est aux Bermudes. On voit bien que ça, ce n'est pas la bonne réponse. Et donc, notre réponse, c'est le profit de Google doit être taxé aux États-Unis, parce que vous avez les équipes de recherche, parce que c'est là que l'algorithme a été développé, parce que c'est là que vous avez la vraie création de valeur, mais il doit aussi, en partie, être attribué à la France, si on prend l'exemple français, mais c'est vrai pour tous les pays du monde, parce que vous avez des gens qui cliquent sur le moteur de recherche, qui fournissent leurs données, qui vont ensuite être monétisées dans un pays tiers, l'Irlande, où les ventes publicitaires sont enregistrées. Et donc, le profit mondial de Google, qui doit être aux États-Unis, mais il doit aussi être dans les pays de marché, et c'est le sens de notre proposition, qui a pour but de faire en sorte que les pays se mettent d'accord là-dessus et entament une vraie négociation. Ils en discutent depuis 18 mois, maintenant il faut passer à la vitesse supplémentaire. Mais cette proposition, elle est aussi discutée avec les entreprises qui la soutiennent, parce que les entreprises, elles préfèrent avoir une règle commune à tout le monde plutôt que 36 règles nationales qui vont plus ou moins bien marcher et qui risquent finalement d'endommager le business et de faire en sorte qu'on ait une situation qui ne soit pas optimale.
Et votre projet, Pascal Saint-Amand, repose notamment sur la mise en place d'un taux d'imposition minimum des géants du web.
Vous avez absolument raison, notre proposition, elle a deux volets. Il y a ce premier volet qui consiste à pouvoir taxer les entreprises même si elles ne sont pas présentes physiquement et à donner plus de profits aux pays de marché. Puis il y a un second volet qui consiste à mettre en place, niveau mondial, le principe d'un impôt minimum. En d'autres mots, ça voudrait dire que les entreprises ne pourraient plus localiser leurs profits dans des pays où il n'y a pas de fiscalité, à défaut de quoi ? Leur pays de résidence, le pays de quartier général, eh bien, prendrait la différence. Un exemple concret, si une entreprise française réussit à localiser une partie de ses profits aux îles Caïmans où il y a zéro fiscalité, eh bien, la France pourrait prendre la différence entre zéro, qui est le taux, et ce taux minimum que l'on va essayer de négocier avec les pays. Les États-Unis, de façon très intéressante, ont mis un tel système en place en décembre 2017, quand ils ont fait leur réforme fiscale. Et évidemment, les pays européens et les autres, maintenant, regardent avec beaucoup d'envie ce système d'impôt minimum. Aux États-Unis, il est de 13%. Donc, les États-Unis taxent leurs entreprises à 21%. Mais quand une partie des profits sont faits à l'étranger, normalement, ces profits ne sont pas taxables, en général, hein, c'est le cas dans tous les pays. Ben là, on dit, même s'ils sont faits à l'étranger, qui théoriquement ne sont pas taxables, s'ils sont taxés en dessous d'un impôt minimum, le pays peut prendre la différence. Et donc, c'est le second volet de notre proposition, qui est très fortement soutenue par la France, qui en a même fait la proposition initialement, l'Allemagne et plein d'autres pays.
Pascal Saint-Amand, en charge des questions fiscales au sein de l'OCDE. Merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Le temps demain, toujours des nuages au nord avec quelques pluies, mais le ciel s'éclaircira dans l'après-midi. Au sud, le soleil s'imposera rapidement. Température minimale de 7 à 16 degrés du nord au sud. Les maximales oscilleront entre 17 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.